Aujourd'hui, Radio Salam reçoit Jean-François Debac, qui est maire de Bourg-en-Bresse, président de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, CA3B, il va falloir s'y habituer, et il est aussi conseiller régional. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va entrer, mais on ne va pas y consacrer beaucoup de temps à cette histoire donc, de l'administrateur. Déjà, moi, je voudrais comprendre pourquoi à l'aglo, il faut passer de la notion de DGS, directeur général des services, à la notion d'administrateur.
Alors, comme vous avez vu au dernier conseil communautaire, j'espère effectivement qu'on ne passera pas l'émission dessus, il y a eu ce qui ne se fait pas, ce que j'ai trouvé très choquant. Une mise en cause publique de la part d'un élu, en réalité Pierre Lurin, le chef de la minorité à Bourg, qui a attaqué non pas des élus, ce qui est normal, mais il a attaqué un fonctionnaire, publiquement. Un fonctionnaire qui ne peut pas se défendre. Je trouve que ces pratiques sont inacceptables. Moi, comme maire, comme président d'agglomération, je refuse qu'on jette en pâture les fonctionnaires en public au lieu d'avoir le débat avec les élus. Quel est le sujet concernant Laurent Guillemot, directeur général des services de la communauté d'agglomération? Ça n'est pas son... Il est... Le sujet n'est pas qu'il ait été, qu'il soit directeur général des services. Le sujet, c'est son grade.
Oui.
Voilà. Son grade administratif. Dans la fonction publique, on est attaché, directeur, et le grade suprême des cadres, c'est administrateur. Laurent Guillemot a été nommé l'année dernière administrateur par Michel Fontaine, mon prédécesseur, puisque tous les directeurs généraux des services successifs de Bourg-en-Bresse agglomération avant était administrateur. Laurent Guillemot n'a pas perçu un centime de plus que d'augmentation. Et cette décision prise par Michel Fontaine a été soumise au contrôle de légalité. Le contrôle de légalité n'a rien dit. Le problème, le sujet est le suivant. Pour une sombre histoire réglementaire, notre nouvelle communauté d'agglomération, comme elle fait plus de 80 000 habitants, son directeur général des services doit forcément être un administrateur. Et Laurent Guillemot ne l'était pas. Donc, il a été nommé pour pouvoir rester directeur général des services de la communauté d'agglomération. Moi, ce que je n'admets pas dans cette affaire, c'est le fait que je n'ai jamais reçu aucun courrier de Pierre Lurin sur ce sujet-là. Il ne m'a jamais interpellé pour obtenir des éclaircissements. On a voulu jeter en pâture un fonctionnaire qui ne peut pas, encore une fois, se défendre. Et ça évite de parler du fond. Parce que finalement, sur le fond, moi, ce que je constate, c'est que l'opposition à Bourg n'a pas grand-chose à dire à ce qui se fait, puisqu'elle approuve même les projets, et j'en suis heureux, que j'ai lancés pour la ville. Elle est d'accord avec la communauté d'agglomération. J'ai constitué un exécutif après mon élection qui fédère la gauche et la droite du territoire. Le budget a été voté à l'unanimité. Les orientations que nous mettons en place sur ce grand territoire sont portées par tous. Donc il fallait bien que Pierre Lurin justifie son statut d'opposant et fasse de la polémique. Et donc quand il n'a rien à dire sur le fond, il attaque les personnes. C'est une pratique politique que je condamne que je continuerai à condamner.
Ok. Alors... revenons-en. Donc, moi, on va discuter justement de la place respective de la commune, de la communauté de communes, parce que, bon, les mauvaises langues disent la commune est foutue, la communauté d'agglo va tout prendre. Moi, je sais que non. Donc, je voudrais qu'on parle du rôle respectif de l'un et de l'autre. Et déjà, pourquoi une si grande agglomération qui va de Saint-Rivier-de-Courte au nord à Dompierre-sur-Velle au sud
Oui, et même à Druyat.
Druyat.
On revient à cette discussion qui a maintenant presque 2 ans, mais oui, qui est la discussion de fond. C'est pourquoi cette grande communauté d'agglomération, et est-ce que cette grande communauté d'agglomération, ça veut dire la fin des communes? Parce que ce sont deux choses différentes. Pourquoi cette grande communauté d'agglomération? Tout simplement parce que nous sommes à l'échelle du bassin de vie. Oui. Tous les habitants de ce territoire, dans tout ce territoire, plus de la moitié des actifs, entre 60 et 80, voire 90%, des gens qui travaillent viennent travailler sur Bourg. Quand on dit sur Bourg, c'est sur les 4 communes urbaines.
Oui.
Bourg, Saint-Denis, Viriat et Perona, où sont localisés l'essentiel des emplois. Tous les enfants vont au lycée À Bourg-en-Bresse. Les clubs ou les structures culturelles les plus grandes, les plus importantes, qui n'existent qu'à un seul exemplaire, elles sont à Bourg et elles rayonnent sur tout le territoire. Depuis des années, nous travaillons à l'échelle de ce territoire sur les grands équipements d'infrastructure. Donc il était utile de se regrouper pour pouvoir, mener à cette échelle-là les politiques de développement économique, d'emploi, les politiques de déplacement, de transport, d'habitat, mais aussi fournir aux petites communes rurales les services dont elles ont besoin, qu'elles ne peuvent pas se payer seules et dont elles ne pourraient pas, auxquelles elles ne pourraient pas avoir accès si la communauté n'existait pas. Donc ce projet, il est bâti autour de cette idée. Et du coup, est-ce que cette grande communauté d'agglomération va manger les communes? Mais ça va juste être l'inverse. Parce qu'en réalité, cette grande communauté d'agglomération, elle doit s'occuper des grands dossiers. Et laisser aux communes, c'est-à-dire les dossiers structurants, ce qui est notre développement, les équipements importants, le développement d'enseignement supérieur, les rocades, les équipements d'agglomération, la politique des transports, etc., pour laisser aux communes ce qui leur revient de droit, la proximité, le service à l'habitant. La communauté d'agglomération n'exerce pas plus de compétences, n'a pris aucune nouvelle compétence à la place des communes depuis qu'elle existe.
Oui, et son objectif, c'était une donnée de base. Hein. Vous étiez donné ça comme...
On n'augmente pas les compétences, on n'en rend pas non plus aux communes. Donc, il n'y a aujourd'hui aucune perte de substance des communes. Ce qui est vrai, c'est que nous avons un enjeu, c'est de garder de la proximité. Et que les décisions qui sont prises à l'échelle de cette grande agglomération, 130 000 habitants, puissent être discutées suffisamment avec, notamment avec les maires, qui ne soient pas décrochés dans des décisions prises. Auparavant, partout, les maires étaient tous membres du bureau de leur communauté. Donc, ils étaient associés à toutes les décisions. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puisque le bureau comprend 24 personnes, mais pas 75. Et donc, tous les maires ne peuvent pas y être. Donc, c'est pour ça que nous avons créé les conférences territoriales, qui permettent de laisser à un échelon local des décisions qui doivent être prises localement. Et c'est comme cela que notre territoire va s'organiser. Moi, je suis confiant parce que je vois que nous tirons tous dans le même sens. Si je fais abstraction des polémiques stériles d'une opposition très politique à Bourg, nous tirons tous dans le même sens parce que nous sommes tous persuadés que à terme de 4, 5, 10 ans, cette organisation-là, c'est celle qui permet à tous les habitants de notre bassin de vie d'avoir demain la fibre optique, d'avoir accès aux services auxquels aujourd'hui ils n'ont pas accès. Par exemple, demain, venir que les gamins des écoles puissent venir nager à Bourg, puisqu'aujourd'hui, ça n'était pas le cas. Mmh. Ceux de Morvel pouvaient aller nager à la piscine de la Plaine Tonique, mais pas à Bourg. Avoir demain une organisation des transports, notamment les transports scolaires, qui continuent à pouvoir irriguer le territoire. Lorsque l'État se retire d'un certain nombre de services, la communauté soit là pour rendre ce service. Je prends un seul exemple. Depuis le 1er janvier, l'État ne fait plus l'instruction des permis de construire pour le compte des communes. Auparavant, il le faisait pour les petites communes. Qu'est-ce que feraient les petites communes sans la communauté d'agglomération? Nous avons décidé de le prendre en charge gratuitement pour faire en sorte que les communes aient toujours ce service. Donc, c'est bien ça l'objectif, c'est de mettre en commun ce qui est structurant et puis c'est de pouvoir rendre des services à l'échelle de l'ensemble du territoire. Si demain nous aurons à travailler par exemple sur un sujet de démographie médicale. Pour la partie urbaine de l'agglomération, on a des problèmes à Bourg, on a des problèmes en première couronne, on a des problèmes en milieu rural. Est-ce que réellement on pense que c'était la communauté de communes du canton de Coligny avec ses 5600 habitants qui allait être apte à accompagner l'arrivée de nouveaux médecins? Non. C'est bien une communauté d'agglomération qui pourra accompagner la réponse à ce besoin. On ne sera pas de trop, parce que c'est un vrai enjeu. Mais pour apporter aux habitants ce service, pour développer des outils, il faut pouvoir mutualiser des moyens. Et la communauté d'agglomération à cette échelle permettra de le faire.
L'idée qu'avec une grande communauté d'agglos de 75 communes, 130 000 habitants, on va faire des économies, Jean-François, il ne faut pas trop compter là-dessus. c'est pas l'objectif premier de faire des économies.
L'objectif premier, il est celui que j'ai dit tout à l'heure.
Oui.
C'est-à-dire celui de donner plus de force à nos politiques, être, pouvoir discuter avec le département, avec la région, et finalement structurer notre territoire. Il est aussi de rendre des services de proximité. Naturellement, il est de le faire sans augmentation des dépenses. Avec, si possible, en tout cas c'est l'objectif, meilleure utilisation, une meilleure mutualisation des ressources humaines. L'objectif, c'est bien de ne pas alourdir les dépenses de fonctionnement. Si, dans certains cas, sur certaines fonctions, on peut même avoir peut-être un peu moins. C'est l'objectif en tout cas d'agents. Par exemple, on faisait 7 budgets auparavant, on n'en fait plus qu'un. Donc, il y a du temps de travail qui ne sera pas nécessaire. La gestion des ressources humaines, il y avait forcément quelqu'un qui s'occupait de questions de personnel à l'intérieur des communautés. Aujourd'hui, on a un service et unique, donc on peut gagner effectivement quelques postes. L'objectif, il est de démultiplier notre effort d'investissement, de maîtriser nos charges de fonctionnement, mais aussi, quand même, de développer du service. Parce que les mêmes qui me disent, ils disent en conseil communautaire, il ne faut surtout pas de fonctionnaires supplémentaires. Ce sont les mêmes qui nous demandent d'instruire les permis de construire parce que l'État ne le fait plus. Et ça, évidemment, il a fallu créer quelques postes pour faire cela. Si on veut irriguer le territoire et, par exemple, continuer à permettre l'accès à des spectacles culturels aux enfants des écoles avec les opérations, les petites scènes vertes, comme la région s'est beaucoup désengagée et arrête de payer, c'est 0 euro maintenant. Si on veut maintenir les petites scènes vertes au profit des enfants des écoles, il va bien falloir que quelqu'un paye. Ou alors on ne le fera pas. Et ça, c'est de la dépense de fonctionnement. Il faudra qu'on ait ce débat entre nous. L'objectif, il est très clair, pas d'augmentation des impôts d'ici la fin du mandat. Sauf si les décisions nationales nous mettaient en situation compliquée. Augmentation de l'investissement et augmentation des services rendus aux communes. Mais si on dit augmentation des services rendus aux communes, eh bien à ce moment-là, peut-être y aura-t-il quelques dépenses supplémentaires. On ne pourra pas demander le service et ne pas et dire en même temps qu'il ne faut pas augmenter d'un euro les dépenses.
Dans ces 75 communes, Jean-François Debat, la ville de Bourg, elle a forcément une position particulière, c'est ce qu'on appelle les fonctions de centralité. Bon, vous avez cité des équipements sportifs, culturels. Est-ce qu'on a vocation à ce que de nouveaux équipements deviennent d'intérêt communautaire? Bon, on a vu le Stade Verchères, on a vu, bon, déjà depuis un certain nombre d'années, le conservatoire,
oui, bien sûr,
de musique. Voilà.
Dans le pacte que nous avons signé avant la fusion, nous avons mis ces choses sur la table.
Oui.
Il n'est pas prévu le transfert de nouveaux équipements. En particulier, d'ici 2020, donc sur ce mandat, la question du théâtre municipal ne se posera pas. Le théâtre restera municipal. La question sera reposée au début du mandat prochain. Moi, je persiste à penser, comme maire de Bourg-en-Bresse, qu'il n'est pas normal que la ville paye seule 1,4 million d'euros pour un théâtre qui bénéficie à l'intégralité des habitants du bassin. Mais nous avons trouver un accord. Et donc, le théâtre restera municipal au moins jusqu'à la fin de ce mandat et la question sera reposée aux élus du mandat prochain. En revanche, il y a des investissements majeurs qui doivent être réalisés sur notre territoire dans des équipements communautaires. Alors, j'entends bien toujours l'observation de certains en disant « Ah, c'est toujours à Bourg ». C'est souvent à Bourg parce que oui, Equinox et Interexpo, c'est à Bourg. La gare, c'est à Bourg. L'université, c'est à Bourg. Le conservatoire, même s'il y a une école, il y a des écoles de musique, il y a notamment celle de Morvel sur le territoire. Oui, le conservatoire qui était programmé par Bourg-en-Bresse Agglomération, donc qui aurait été financé par Bourg-en-Bresse Agglomération, c'est aussi à Bourg. Mais le principal investissement que nous allons lancer dans l'année qui vient, c'est la plaine tonique, la rénovation de la plaine tonique, qui a besoin d'être rénovée pour être un poumon d'attractivité touristique, pour attirer davantage de personnes venant de l'extérieur, mais aussi venant du territoire, pour le moderniser, et c'est un poumon à la fois économique et de loisirs sur notre territoire. Et ce n'est pas à Bourg-en-Bresse. Ça prouve bien qu'il peut y avoir et il y aura de grands investissements structurants à l'échelle de l'ensemble du bassin de vie auxquels tout le monde va contribuer parce que la communauté de communes de Morvel n'était pas en état de réaliser ce projet à 20 millions d'euros si elle était restée toute seule. Eh bien, il y aura des investissements de cette nature ailleurs qu'à Bourg-en-Bresse pour contribuer au développement de notre bassin de vie et de l'intégralité de notre bassin de vie.
Alors, deux mots de Bourg-en-Bresse. Bon, le grand chantier que je vois, moi, c'est le carré Amyot, Jean-François, qui va accueillir le conservatoire régionalement départemental, musique et théâtre. Et autour, donc, un développement
commercial.
Donc, ce projet, vous y tenez particulièrement, Jean-François ?
Je pense que j'ai fait campagne sur ce projet en 2014. Il a été débattu et discuté. Oui, je pense que ce projet est essentiel pour l'attractivité de notre cœur de ville. Depuis un certain nombre d'années, on avait le sentiment que notre cœur de ville était en train de se racornir, qu'il était agressé de toutes parts, qu'il manquait d'air, qu'il manquait de souffle. Finalement, le projet que je porte pour la ville, eh bien, c'est de l'élargir, c'est de lui redonner de l'air. Sous le mandat précédent, on a rénové la gare, ouvert le parc de la Madeleine, de manière à redonner de l'air sur le haut de la ville, le tirer. Avec l'aménagement à l'Éden, de la supérette Biocop, on a ramené du commerce sur le haut de l'avenue. Donc ce centre-ville, il faut l'étirer vers le haut pour éviter qu'il se racornisse et que le commerce ne disparaisse. Le commerce ne se porte pas mal à Bourg, il se porte même plutôt bien. Mais il faut contribuer à lui donner de l'air. Le deuxième élément, c'est qu'on avait cette espèce de grand no man's land entre le champ de foire et finalement le cours de Verdun. C'est long, hein, 200 mètres sans rien. Eh bien oui, le carré Amyot, ça doit être un lieu qui, je dirais, élargit notre cœur de ville, à proximité immédiate du marché couvert et du parking qui sera créé à côté du marché couvert. C'est le point d'entrée dans le centre-ville, avec du développement commercial. Le message que j'ai voulu donner aux opérateurs commerciaux, si vous voulez créer des nouvelles surfaces de commerce, c'est ici que ça se passe. C'est-à-dire, c'est vers le centre-ville. Oui, pour moi, c'est un projet très important. D'ailleurs, les Burgiens se le sont appropriés. Je crois que les aménagements qui ont été réalisés autour de la gare des bus sont appréciés qualitativement. Il y aura un trait d'union entre le champ de foire et le cœur de ville par le carré Amyot. Mais je n'oublie pas un autre projet qui va être lancé en même temps cette année, c'est la rénovation de l'avenue Alsace-Lorraine. On tire le centre-ville vers le haut pour le reconnecter avec la gare. On le tire vers le bas et on l'élargit pour que le carré Amyot soit le point d'entrée du centre-ville. Ben, au milieu, il y a le trait d'union. Le trait d'union, c'est l'avenue Alsace-Lorraine, dont la rénovation commencera à l'automne, à la rentrée 2017. Moi, je suis engagé dans la mutation de Bourg. Je pense que cette ville, notre ville, ma ville, a énormément de potentialités. Et oui, le principal projet, le plus gros projet en tout cas de ce mandat, c'est l'aménagement du carré Amyot et du cœur de ville. Mais il y a aussi des projets dans les quartiers, des équipements que nous avons créés, le centre de loisirs du Dévora l'année dernière, la rénovation, le nouveau restaurant scolaire Odim, les aménagements dans les quartiers. Il y aura
le pont des Chèvres
sur le pont des Chèvres dès l'année prochaine sur le boulevard. Je veux faire sauter cette barrière métallique qui coupe le quartier sur le boulevard Édouard Herriot. Là, vous avez cette deux fois deux voies avec la barrière métallique au milieu. Je veux faire sauter cette barrière. On a l'impression d'être sur une rocade, alors qu'en réalité, on est sur un boulevard.
Ça pourrait devenir un boulevard urbain, quelque chose.
C'est l'objectif. Il y a des gens qui habitent des deux côtés. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas traverser. Ils sont coincés dans leur quartier, dans leur immeuble ou devant chez eux, parce qu'il y a des voitures qui passent à 70 à l'heure, comme si on était sur une autoroute. Ça n'est pas supportable. Et donc, c'est le premier investissement qui sera fait sur le quartier du Pont des Chèvres, ce sera ça. Mais on ouvre aussi le parc de la Charité cette semaine-là au public, qui va permettre une connexion entre la rue du 23e mairie et puis tout le quartier situé à l'arrière. Donc il y aura des aménagements dans tous les secteurs des quartiers de la ville, même si aujourd'hui, c'est vrai, le projet du carré Amyot et la rénovation de l'avenue Alsace-Lorraine sont des projets majeurs pour le bon fonctionnement et le bien-être de la ville.
Alors, sur ce carré Amyot, on a déjà un petit aperçu avec la rue René-Cassin qui est refaite et qui, à ce moment-là, laisse la place à tous les modes de déplacement.
Oui, c'est le but. C'est que le vélo ait sa place partout en ville, c'est que les bus aient des sites propres. Nous allons créer également un site propre pour les bus, boulevard Maréchal Leclerc, pour aller jusque au faubourg de Mâcon, de manière à donner aussi un avantage et un fonctionnement plus fluide aux bus. Et puis, le partage de l'espace public, c'est vraiment l'enjeu des villes du futur. Un meilleur espace, ça ne veut pas dire plus de voitures, ça veut dire que la voiture ne prenne pas toute la place. C'est aussi pour ça que nous avons réorganisé le stationnement, pour que chacun puisse trouver de la place dans des parkings en ouvrage, qu'on a la gratuité de la demi-heure si on reste pas trop longtemps, et qu'on laisse plus de place aux vélos, aux piétons. Et les vélos doivent aussi respecter les piétons.
Voilà, et les voitures doivent respecter les passages piétons.
Les voitures doivent respecter les passages piétons, mais en cœur de ville, je le rappelle, il n'y a plus de passages piétons, ou du moins pas beaucoup, puisque le piéton est normalement prioritaire.
Alors pour l'anecdote, rue du Cordier, j'ai vu arriver deux chicanes qui protègent les passages piétons, parce que je pense que les voitures allaient trop vite et ne s'arrêtaient pas quand ils voyaient un piéton dans la route, d'autant que c'est un lieu de passage des enfants qui vont à l'école de Charles-Robin.
Il y a beaucoup d'aménagements comme cela de proximité pour tenir compte, c'est les conseils citoyens qui les font remonter, les réunions publiques de quartier, ce sont des aménagements qui permettent d'améliorer ponctuellement à tel ou tel endroit la sécurité, qui permettent également de répondre aux besoins des habitants. Je sais que nous avons des enjeux sur le domaine public, sur l'entretien de certaines rues ou trottoirs. On essaye de rattraper le retard accumulé depuis des décennies, on a un peu de mal, mais pour moi, la politique municipale, elle est équilibrée. Elle est équilibrée entre le cœur de ville et les quartiers, et j'y veillerai.
La circulation suite à déplacement de la gare des bus, là, bon, il y a toujours des critiques ou
ça... Oui, il y a forcément des... Comme on a modifié les lignes de bus. La gare, le fonctionnement de la gare s'est nettement amélioré. Au début, Carpostal avait des difficultés, qui gère les bus, avait des difficultés à assurer les correspondances. Ouais. Puis les usagers ne connaissaient pas vraiment le quai sur lequel il fallait aller. Donc, il y a eu quelques semaines difficiles à l'automne dernier. Ceci a été largement réglé. Par contre, il y a certaines lignes ont été modifiées. Et effectivement, certaines dessertes, certains mouvements sont plus compliqués qu'avant. D'autres, au contraire, sont plus faciles. Mais les personnes qui avaient l'habitude de prendre le bus qui les laisse de tel endroit, qui les laisse à tel endroit, et qui ne trouvent plus exactement la ligne, bah forcément sont un peu perturbés. Notre objectif, c'est bien d'expliquer, de continuer à expliquer aux usagers comment mieux utiliser les bus. Ce que nous avons fait, c'est que néanmoins, sur plus de la moitié des lignes, nous sommes passés à la fréquence de toutes les 15 minutes, au lieu de 20 ou 25 minutes, même s'il y a encore des lignes qui sont à 25 minutes. Mais il y a aujourd'hui les lignes les plus fréquentées, qui représentent 75% des usagers, sont au quart d'heure, ce qui est une amélioration significative.
Voilà, plus besoin de regarder sa montre quand on va prendre le bus. On normalement. On va en trouver un dans les minutes qui suivent. Il y a encore trop de voitures qui descendent le boulevard de Brou et la rue du 4 septembre, Jean-François.
Oui, mais écoutez, si les gens veulent aller... vous savez, si les gens veulent passer par là pour remonter sur la rue Gabriel-Biquaire, ils vont mettre plus de temps. Voilà, moi, je n'interdis rien, mais il est conseillé aux usagers qui veulent aller vers le champ de foire ou aller au nord du champ de foire, de passer par le carrefour de l'Europe.
Voilà, prendre des circuits, ne le non pas les plus courts.
S'ils ne le souhaitent pas et qu'ils s'accumulent en bas, je l'entends. Mais aujourd'hui, si on veut aller au champ de foire, on peut passer par là. Si on veut aller plus loin, il est conseillé de faire le tour. Ah ouais. Moi, dorénavant, j'utilise toujours, lorsque je suis redescendu de Césaria il y a quelques jours en voiture, je suis souvent en vélo, mais j'ai mis exactement 4 minutes entre le carrefour de la Croix-Blanche et la Charité, en passant totalement par le boulevard extérieur, parce que les feux ont été améliorés pour donner plus de fluidité. Si vous passez par la rue Charles-Robin, le boulevard, et puis la rue Gabriel-Vicaire, vous mettrez 10 minutes, parce qu'en ville... l'enjeu, c'est d'arriver en ville pour aller se garer et en repartir. Mais on ne traverse pas le cœur de ville juste pour aller d'un point A à un point B. On ne traverse plus le cœur de ville, c'est pas l'objectif, en tout cas, pour aller du carrefour de l'Europe à la gare. On contourne, comme dans toutes les villes de France, mais je suis sûr que les Burgiens, qui sont tout aussi intelligents et souples que les autres, s'y feront aussi.
Voilà, merci. Je rappelle aux auditeurs que j'étais en compagnie de Jean-François Debat, maire de Bourg, président de CA3B, la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse. Merci, au revoir.
Merci Charles.